erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fût-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée.
Vous verrez, vous êtes jeune, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous serez aussi celui qui tutoie les hommes politiques.
Non, il n'y a pas de sujet tabou, il y a simplement, je crois qu'on peut parler de n'importe quel sujet à la télévision à n'importe quelle heure. Il s'agit de savoir comment on va le faire.
La seule, le seul élément qui puisse nous faire reculer, c'est la difficulté d'accéder à l'information. Je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, on a envie d'enquêter sur tout.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Jean-Paul II, c'est décidément un pape pas comme les autres. Un pape surprenant, un pape que les publicitaires eux-mêmes admirent.
Il a ce qu'on appelle, nous, la pêche, c'est-à-dire la forme.
Zitrone, ce vieux larbin, Moujac, ce faux derche revenu de toutes les gauches, Bassi ou Cavada, si nul, si prétentieux.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Il y a la loi de l'offre et la demande. Donc on est dans un prestataire qui est une agence photo qui vend un sujet et qu'on choisit d'acheter ou pas. Et puis on discute du prix, enfin comme n'importe quel reportage.
Je vous en prie. Vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marché. Non, tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre.
Et la question c'était pourquoi est-ce que ce sujet n'est jamais passé à la télévision? Bon, et en fait, quand on répond, on s'aperçoit que ça n'intéresse pas les réponses.
Tout est dit.
Tout est dit.
Après un mois d'absence, un mois de longue attente pour tous nos auditeurs fanatiques de Radio Propagande, nous sommes enfin revenus dans les studios. Alors un mois, ça veut dire... alors déjà, je vais brancher le micro de Com, qui est d'abord... Parce que d'abord, c'est ton émission, Com.
Merci. Les choses.
Bonjour. Je suis donc le technicien de cette émission, puisque je n'ai pas... Un mois, j'ai eu le culot de ne pas préparer une seule chronique. Et donc, Com va animer cette émission. Et j'ai préparé subtilement plusieurs pauses musicales.
Mais c'est bien,
voilà.
C'est
important. Donc Radio Propagande, non, mais... comme vous le connaissez sans
tu vas,
doute...
Tu vas rebondir avec une spontanéité incroyable.
Voilà, une émission de critique des médias, une émission de critique du marketing publicitaire. Une émission qui donc, comme l'avait rappelé Virginie ce matin, est là de temps en temps, de façon alternative. Nous sommes une émission alternative de Radio,
non,
de
là,
Radio
on va,
Béton.
On va être là tous les 15 jours, c'est sûr.
Voilà, et donc si vous nous écoutez, appelez-nous pour qu'on puisse vérifier si depuis 2 ans et demi, quelqu'un nous écoute. ça nous fera le plus grand bien. On va commencer cette émission parce que l'actu l'impose, n'est-ce pas, comme l'actu brûlante. Radio Propagande est une émission qui surfe sur l'actu. On va parler de Balladur.
Une petite brève sur Balladur.
Alors, le gouvernement Balladur, rappel des faits.
Pas du gouvernement, mais non, mais en fait, c'est une petite phrase qui est sortie cette semaine, en fait, qui a été citée par un magazine, mais qui date du début de l'année. C'est un livre en fait qui était sorti au début de l'année de Jean-Pierre Bédéi, qui s'appelle L'information de pouvoir, manipulation de l'information sous la 5e République. Et donc ce livre, entre autres, parle du rapport entre le pouvoir et l'information sous la 5e République. Donc, il citait entre autres une note, un genre de note de service, mais une note confidentielle évidemment, ou censée être confidentielle, réalisée donc par le gouvernement Balladur en décembre 93. Donc Balladur c'est 93-95, et qui est une note qui concerne les journalistes, c'est-à-dire une note qui parle de journalistes à valoriser et à garder sur France Télévisions, ou au contraire à virer parce qu'ils sont pas bien. Donc il y a, ça dit entre autres, en politique à aucun prix. Alors c'est un style télégraphique, hein, c'est une en politique à aucun prix, Jean-Luc Manot, Rachid Arab, Olivier Lerner. À l'intérieur, Arlette Chabot est très bien, chef du service politique, ne surtout pas la mettre dans le placard qu'elle retournerait à TF1. Éventuellement engagé, Philippe Reynard, le Premier ministre l'a promis. Philippe Séguillon, alors il y a une erreur de prénom, mais voilà. Et en économie, le chef du service éco, Véronique Auger, est nul. Voilà, donc petite note qui a été retrouvée par l'auteur du livre dont je parlais dans les archives de Matignon, dans un dossier rouge au nom de Jean-Pierre Alcavache, qui était dirigeant de France Télévisions, enfin France 2 à l'époque. Donc évidemment, la validité de la note est remise en cause par les la plupart des personnes concernées qui disent que non, c'est pas vrai du tout et c'est du flan. Et ça a été repris par assez peu de monde, mais sur le net ou ailleurs, il y a quelques personnes qui en parlent, mais curieusement, les journalistes n'en parlent pas énormément. Il y a eu quand même quelques médias qui s'y sont intéressés, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils s'y sont intéressés. Je vais prendre un exemple, c'est Jean-Marc Morandini, ancien animateur télé, enfin non, toujours animateur télé, mais qui avant
c'est ça tue comme exemple.
Ouais.
Jean-Marc Morandini.
Non, mais qui a plein d'émissions sur les médias en fait. Enfin, il a un blog sur les médias, il a une émission de radio sur les médias, il a une émission de télé sur les médias. Il est partout quoi. Il cause des médias. Alors évidemment, c'est pas de la critique des médias, hein, c'est plus l'actualité des médias, les programmes, etc. Mais de temps en temps, il prend quand même des sujets un peu plus profonds, un peu plus importants. Et donc là, en l'occurrence, bah, c'est un des rares à avoir cité cette note en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que les journalistes seraient manipulés en France ? C'est horrible, il faut en parler. Et donc dans son émission de télé, il a fait un petit débat sur la chose avec deux intervenants qui évidemment ont expliqué que bon alors déjà c'était peut-être faux, mais que bon même si c'était vrai, c'était pas très important parce que les pressions sur le pouvoir, bah oui évidemment ça existe, c'est normal, le pouvoir il essaie d'arriver à ses fins, etc. Mais il suffit qu'il y ait un responsable de l'information, enfin un directeur comme Jean-Pierre Alcabache par exemple, qui soit suffisamment fort pour résister à ces pressions, et ça n'a aucune influence sur le travail des journalistes, et tout va bien. Et la conclusion
on sait que Jean-Pierre Alcabache est un grand résistant.
Mais oui, bien sûr. La conclusion du débat, c'était ça. C'était, bah oui, bon, bah, Jean-Pierre Alcabache s'était pas laissé faire, et donc il avait tout allait bien, et même si cette note a existé, elle n'a eu aucune importance, puisque les journalistes n'en ont pas tenu compte. Hein. Et effectivement, ce qui est amusant, c'est que Jean-Pierre Alcabache, depuis les années 70, hein, ça date pas de le sarkozisme ou quoi, depuis les années 70, c'est le symbole du journaliste engagé à droite, c'est-à-dire, il y a d'autres journalistes qui sont plus ou moins, qui arrivent à garder une certaine neutralité partisane, soit qu'on cherche exactement qui soutiennent le plus. Mais Jean-Pierre Alcabache, le 10 mai 80, à la Bastille, quand les gens fêtaient la victoire de Mitterrand, il y avait des slogans hostiles à Alcabache, qui s'est d'ailleurs fait virer très vite, une fois que la gauche est arrivée au pouvoir, et il est revenu quand la droite est revenue au pouvoir. Enfin, c'est le journaliste de droite par excellence. Donc évidemment, dire de ce type-là qui peut résister aux pressions du pouvoir, c'est un peu absurde. Et légèrement rigolo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a donc dans notre dernière émission qui ne date pas de la semaine dernière, mais d'il y a un mois. Pépé, arrête de rire en.
Moi, je fais juste rire enregistré comme dans la sitcom. Tu cool, sais, chaque fois que tu vas dire une vanne, je vais rigoler.
Faut que je prenne des silences alors, sinon ça casse le rythme. Bref, de notre dernière émission, tu te souviens de notre dernière émission, Pépé?
Comment ?
Tu te souviens de
notre dernière mission ? Ouf, c'était il y a longtemps.
Ouais.
C'était quand j'ai. Ouais. Oui, très bien. Mais il y avait un dossier sur le Venezuela.
C'est vrai qu'il y a la sourde. Non, mais entre autres, nous parlions d'un nouvel ordre médiatique qui se mettait en place petit à petit. Alors, l'expression est un peu grandiloquente parce que c'est pas spécialement nouveau d'ailleurs, même si ça varie un petit peu. Mais on expliquait que, globalement, pendant très longtemps, les journalistes ne tenaient aucun compte des critiques qui pouvaient leur être faites et ne les intégraient pas dans leur façon de présenter l'information, et que c'était pas quelque chose qui apparaissait visible dans les médias eux-mêmes. Et que depuis quelques temps, et en particulier depuis l'année dernière où la question de la pression du pouvoir s'était posée, les journalistes ont intégré un peu plus les critiques qui leur sont faites, mais ils les intègrent pour les désamorcer tout de suite. Et là, c'est un exemple typique, c'est-à-dire que la plupart des journalistes sont encore sur les anciennes habitudes qui est bon, bah ça on n'en parle pas et comme ça personne ne sera au courant, c'est très bien. Mais il y a quelques journalistes, donc Morandini par exemple, qui prennent le sujet pour dire ah bah oui tiens, il y a une note, il y a une pression du pouvoir, c'est pas bien, et qui tout de suite le désamorce en disant ah mais oui ça peut-être ça a existé sûrement, mais ça n'a pas d'importance puisque les journalistes sont des gens très bien, qu'ils savent résister aux pressions du pouvoir, et que même si ils en subissent et qu'il y a des ministres ou autres qui essaient de les influencer, et ça rate parce que les journalistes ont une conscience professionnelle, qu'ils arrivent à résister aux pressions et que donc tout va bien. Et c'est un peu la façon de fonctionner de pas mal de journalistes, c'est de se dire que ils peuvent plus cacher cacher le fait que beaucoup de gens les critiquent et qui sont critiquables sur beaucoup de choses. Mais au lieu d'en tenir compte réellement sur le fond, évidemment, ils font semblant de l'intégrer dans leur réflexion pour mieux le désamorcer tout de suite. Et c'est une forme de nouvel ordre médiatique, pardon, dont les exemples sont de plus en plus nombreux. Et donc, il y en a eu un de plus cette semaine avec Morandini.
Voilà, et nous, donc une émission de critique des médias comme Radio Propagande doit s'intéresser aussi à d'autres médias. On a toujours défendu l'idée que les médias, on nous disait que c'était la presse, la télévision, voilà, et il y a d'autres façons de faire passer des idées, notamment la musique, et évidemment ce mouvement hip-hop qui a pour beaucoup de gens en fait compté comme un des médias qui a dit autre chose que ce qu'on entendait à la télévision. C'était le cas de pas mal de gens, et notamment on rend hommage à un groupe qui se reforme aujourd'hui, alors on ne sait pas si ça va être très très intéressant, mais qui a fait montrer le chemin à plein de gens dans les années 88, 89, 90, c'est Suprême NTM. Et je dis que j'avais pas travaillé, mais j'ai quand même retrouvé ce 45 tours de 1989, Le Monde de Demain, de Suprême NTM. Et c'est un morceau inédit, puisqu'il n'est pas, je crois, en version comme ça sur l'album.
C'est ma présence, trop incertain, travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas, aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse, qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car ça passe sans seulement concerné lorsque leurs proches se font assassiner. Est-ce ceci la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a bien nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute sur ensemble. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée, prête à tout ébranler. Même le système qui nous pousse à l'extrême. Mais NTM ne lâchera pas les rênes épaulées par toute la jeunesse défavorisée. Sa vérité engagée, le droit à l'égalité. Me voilà de nouveau prêt à redéclencher une vulgaire guerre civile et non militaire. Y'en a marre des promesses, on va tout foutre en l'air. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute sur enfin. Je ne te demande pas de comprendre mais de résoudre des problèmes qui habitent la banlieue qui s'agit toujours plus vite. Sans limite, admet qu'il y a un point critique à ne pas dépasser. En tant qu'informateur, je me sens obligé de dévoiler la vérité, car le silence ne sera plus jamais toléré. Oh oui, c'est triste à dire, mais tu n'as pas compris
pourquoi les jeunes de mon quartier vivent dans cet état d'esprit.
La délinquance avance
et tout ceci a un sens,
car la violence coule dans les veines
de celui qui a la haine.
Ok, je reprends les rênes pour faire évoluer ton esprit. Prisonnier d'un système où les règles ne sont pas les mêmes. Suivant ta classe, suivant ton style, suivant ta face, suivant ta race. Le rouage est bien huilé, le système bien ancré. Ok, mais n'oublie jamais que je suis armé de paroles pour m'imposer, m'interposer, processus enclenché. Je balance ma vérité. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute sur enfin.
Suprême NTM. Suprême NTM. Suprême NTM.
Et oui, ce morceau était inédit puisqu'il finit bien avant le morceau de l'album. Ils ont dû rajouter quelques secondes de musique sur l'album. Donc voilà, le son était un peu pour rien parce que c'est un 45 tours d'une époque préhistorique. Voilà, il était même pas nettoyé. Alors comme on reprend, puisque c'est ton émission, c'est le One Man Show, il faut donc que je te branche le micro pour ça.
Ah oui, je parlais par là. Bon.
Voilà.
Oui, donc là on...
Oui, on parle de quoi?
On va parler de la banderole.
On a un chapeau en fait, en général, dans l'émission, et puis on tire un sujet au hasard. Et comme est incollable, alors on tire le chapeau, attention, on tire le papier et on va parler de...
La banderole.
La banderole. Alors vas-y, impro sur la banderole.
Ouais, comment ça impro? Non, donc oui, l'affaire de la semaine, hein, la fameuse banderole qu'on n'a pas vue à la télé pendant le match de foot de samedi soir, mais qui a fait parler après. Donc pendant le match entre Paris et Lens, où il y avait une banderole des supporters parisiens qui disait pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Avec un humour de supporter, hein, bien sûr. Depuis samedi soir, il y a pas mal de réactions là-dessus. Des suites judiciaires, des suites sportives, il y a quand même les gens du club de Lens et les élus du Nord qui ont été reçus par Nicolas Sarkozy, président de la République quand même, pour dire que c'était horrible, qu'il fallait faire quelque chose, que ça n'allait pas en rester là. Et donc tous les médias se sont emparés du truc pour leur scandale de la semaine, puisqu'il y en faut un par semaine au moins, et pour évidemment dénoncer les supporters, dénoncer l'amalgame entre l'affaire de Trou, hein, puisque ça fait surtout référence à ça, dénoncer le fait de pouvoir comme ça insulter d'un coup toute une population qui se trouvait relativement à la mode avec le film Bienvenue chez les Ch'tis et puis quelques autres choses. Donc voilà, tous les journalistes dénoncent cette banderole haineuse en disant que c'est absolument n'importe quoi. Et ce qui nous a intéressé à Radio Propagande, c'est que il y a quelques années, pas si longtemps que ça, les journalistes disaient, pendant des mois, on dit à peu près la même chose que ce qu'il y avait sur cette banderole. C'est-à-dire que si on reprend l'affaire d'Outreau, maintenant les gens ont été disculpés, et quand on parle de ça, ça symbolise plus une erreur judiciaire, mais pendant des mois, au début de l'affaire, personne s'est posé la question que ces gens pouvaient être innocents. Et les médias en ont fait des tonnes, hein, sur la pédophilie dans ces quartiers, puisque ça se passait dans un quartier pauvre du Nord, enfin la Tour du Renard, dans une cité, etc. Et les médias en avaient fait des tonnes sur le fait que ces quartiers-là, c'était des pauvres, donc un peu alcooliques, un peu violents, un peu barbares entre guillemets, et que la pédophilie, ça venait presque naturellement, et que du coup l'affaire du trou n'était pas si étonnante que ça. Et donc on a repris quelques citations qu'on avait déjà citées ici, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, enfin en janvier de l'année dernière, on avait fait des émissions sur les faits divers.
Un superbe dossier de
toi,
de Pépé.
Eh oui. Que vous pouvez retrouver sur notre site internet radiopropagande.free.fr, où quasiment toutes nos émissions sont disponibles au format MP3. Donc il y avait cette émission de janvier 2007 sur les faits divers, où on expliquait un petit peu le fonctionnement, enfin comment est-ce que les journalistes traitaient les faits divers, et il y avait des citations à propos de l'affaire d'Outreau sur cette espèce de racisme social qui a conduit pendant vraiment des mois, fin 2001-2002, les journalistes à en faire des tonnes sur la pédophilie quasiment naturelle des gens du Nord. Et donc on a repris quelques-unes de ces citations, donc on va les reprendre un an après, on peut quand même. Pépé, tu te souviens de ces citations que tu avais fait?
Je m'en souviens d'une qui est terrible, je sais plus dans quel journal c'était. C'était dans le Nord. Ah non, c'était pour l'affaire Grégory qu'on disait. Non, c'était peut-être pour autre chose.
je vais lire ce que...
Ouais, c'était. Dans le Nord, on se tape un garçon comme on boit une bière. Un truc comme ça.
Ouais. Alors ça c'est dans le monde, le quotidien de référence,
le truc sérieux,
sous la plume de Alexandre Garcia, parce qu'il faut quand même citer les gens qui écrivent ces trucs-là sur leur ordinateur, hein, c'est pas des phrases qui arrivent comme ça de n'importe où.
Et puis il y a un rédacteur en chef, hein, qui doit relire, et puis après il y a un directeur de la publication qui laisse passer.
Mais oui.
Et qui laisse passer ça.
Mais oui, puis qui s'excuse pas après ou rien. Bref, donc Alexandre Garcia avait écrit exactement, c'est devenu une sorte de mode de vie dans les cités, on se tape une bière comme on se tape un garçon. Ce qui est quand même pas mal. Et donc il y en a deux autres, hein, qui valent le coup d'être cités dans donc des journaux différents. Le Figaro en janvier 2002, donc à propos de la fameuse donc Tour du Renard à Outreau. Elle est, comme beaucoup d'autres cités dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, victime de l'explosif cocktail, chômage, alcool, oisiveté et promiscuité. L'inceste n'est alors jamais bien loin. Le Figaro, hein, c'est bien le Figaro.
C'est très sociologique comme étude. C'est...
Et le Parisien, qui a été le, enfin, peut-être le journal qui a le plus réagi après la banderole de samedi, qui vraiment enfin, a fait des unes là-dessus très dramatiques. On a fait des tonnes sur le fait que c'était un scandale, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose et tout. Le Parisien, le 27 juin 2002, dans un article de Valérie Briou et François Vignol, écrivait ceci. Le drame d'Outreau se joue sur fond de misère sociale dans une région, donc le Nord, où l'alcoolisme, les comportements incestueux, la pédophilie sont presque culturellement admis. Eh oui, on.
C'est incroyable, je veux dire, c'est la presse qui dit ça. Ça,
mais oui, ce qui est fou, c'est encore une fois, enfin, ça paraît, enfin, comme ça, juste des citations. Alors déjà, c'est quand même à la base des journalistes qui ont écrit ça. Enfin, ils doivent se relire un minimum ou réfléchir un minimum à ce qu'ils font. Enfin, on pourrait le supposer. En tout cas, ils ont quand même été jusqu'à écrire des trucs comme ça, que la pédophilie était culturellement admise. Enfin,
le Nord, c'est un pays différent, hein, je veux dire.
Ah bah oui, à l'époque, le Nord, c'était horrible. Hein. C'était l'avant-garde de la Roumanie. C'était atroce. Et donc maintenant, ça ne l'est plus. Donc ça ne marche pas. Et ce qui est fou justement, c'est comment est-ce que les médias sont passés de cette période où pendant des mois, bah, c'était naturel pour eux de condamner totalement à l'avance les accusés d'un affaire de trop et de condamner par extension tout le milieu social dont ils venaient et le milieu géographique aussi, c'est-à-dire le Nord et surtout le milieu social, c'est-à-dire que de dire que cette affaire, elle venait du fait qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient bêtes, enfin qu'ils étaient consanguins quasiment. C'est quasiment ça, hein, qu'il y a un côté naturel et à toutes ces affaires-là. Et c'est des choses d'ailleurs qu'on peut. Là, j'ai pris les citations sur Outreau parce que ça concerne le Nord et c'est donc ça concerne la banderole de l'autre jour. Mais il y avait à peu près la même chose sur des. Enfin, dans l'émission qu'on a faite sur les faits divers, il y avait une autre citation sur l'affaire Grégory qui, elle, se passait dans l'Est, où il y avait pareil, un journaliste qui écrivait qu'il se retrouve face à des montagnards incultes dont ils comprennent à peine ce qu'ils disent parce qu'ils ont un accent incroyable et que du coup on ne peut pas passer leurs interviews parce que sinon il faudrait les traduire. Enfin, dans les deux cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que les journalistes se retrouvent face à des milieux sociaux qu'ils ne connaissent pas et qui donc jugent avec des critères complètement extravagants et avec un regard comme s'ils débarquaient sur la planète Mars parce qu'ils ils connaissent pas la pauvreté. Enfin, c'est pas la classe, enfin la classe des journalistes ne vient pas forcément de ce milieu-là, loin de là. Et donc, ce qui est le plus affolant, c'est l'absence de mémoire des journalistes. C'est-à-dire que bon, en 2002 ils peuvent écrire ça, et en 2008 ils peuvent s'affoler et se placer en donneur de leçons sur la banderole de samedi en disant que c'est horrible et que il faut faire quelque chose, alors qu'ils ont écrit la même chose quelques années avant
et qu'ils ont peut-être justement cette
ils créent un climat et une pendant des mois à force de répéter ça évidemment que ça laisse des traces et c'est là que qu'on voit que les médias sont bien un système qui est quand même à forte tendance totalitaire, c'est-à-dire que c'est un système qui efface sa propre mémoire et ses propres erreurs. Si on se souvient de 1984, le livre n'est pas seulement l'année. Il y a la même chose. Hein, la dictature, elle efface le passé quand ça l'arrange et quand il faut définir autre chose. Enfin, quand les alliances changent, et ben on réécrit tout de suite l'histoire pour dire que le nouvel allié, ça a toujours été notre allié et qu'on n'est plus en guerre. Qu'on n'est plus en guerre contre lui, qu'on n'a jamais été en guerre contre lui. Et là, les médias, c'est la même chose. Ce que font la réaction des médias après l'affaire de samedi, c'est de dire évidemment que c'est horrible et évidemment que jamais on pourrait, jamais personne de sensé pourrait penser ou écrire des trucs pareils. Et les supporters qui ont fait ça sont vraiment des sales cons et il faut les punir. Alors que il y a pas si longtemps que ça, ils ont écrit la même chose. Et ces phrases-là, là, elles ont pas conduit un scandale dans la presse. Les journaux se sont pas excusés. Les journalistes pas été renvoyés, ils ont pu écrire ça, la pédophilie culturellement admise, etc. Ça a été écrit sans que ça fasse de scandale. Et aujourd'hui, les journalistes prennent à peu près les mêmes termes, prennent la banderole qui veut dire globalement la même chose, hein, en disant ah oui, ça c'est un scandale. Aujourd'hui, c'est un scandale. Il y a quelques années, quand c'était nous qui le disions, c'était pas un scandale, mais aujourd'hui, c'en est un. Sauf qu'évidemment, Bah, il y a personne pour à part nous évidemment.
Exagère rien. Je pense qu'il y a
oui, non, 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 mais non, mais je veux dire dans le système des médias lui-même, on parlait pour l'information précédente que de temps en temps les journalistes maintenant ont tendance à intégrer la critique qui leur est faite. Là, j'ai vu nulle part reprendre des journalistes reprendre ce qu'ils avaient pu écrire quelques années avant, ou des gens essayer de nuancer un petit peu le scandale qu'il peut y avoir depuis samedi en disant ah mais oui évidemment que c'est horrible mais c'était horrible aussi ce qu'on a écrit il y a des années et on s'est complètement planté.
Ou en tout cas pourquoi des gens ont des préjugés comme ça, qui c'est qui produit ces idées là et ça c'est jamais quelque chose qui est interrogé par la presse puisqu'elle sait, enfin elle sait où elle a intégré l'idée que évidemment elle fait l'opinion et que du coup quand une opinion lui plaît pas comme ça elle va surtout pas se dire ah oui parce que nous on fait l'opinion aussi, les opinions racistes elles viennent aussi des médias évidemment. Alors, et je te propose de faire une petite pause musicale pour reprendre ensuite un super dossier sur José Bové, sur le film qu'a sorti je sais plus qui.
Sacrimette, c'est un film de Damien Doigneau. Ouais. Lancé par Acrimed, le plan B, voilà.
Voilà. Et qui ont
sur qui s'appelle le cirque médiatique, alors qui ne concerne pas José Bové, que José Bové, pardon. Beaucoup lui, mais d'une façon générale, l'extrême gauche, entre guillemets, ou la gauche contestataire, et la façon dont elle se compromet avec les médias.
Voilà. Et donc, pour cette pause, en fait, en retrouvant le petit 45 tours de Suprême NTM, juste à côté, parce que c'est super bien classé chez moi, les vinyles, et donc le premier 45 tours d'Assassin, donc pareil, qui est sorti en 1990, avec un morceau, en fait, en face A, qui n'a pas du tout resté dans l'idée d'Assassin, parce qu'en fait, on l'a jamais retrouvé sur un album. C'était le premier morceau, il est mixé, vous allez voir, c'est assez énorme d'entendre autant de basses, ça va faire crisser vos enceintes. Et bah voilà, donc on va le passer parce que l'objet est quand même incroyable et la vitesse de débit de ce rap est impressionnante.
Note mon nom sur ta liste, mon fils. En deux, c'est la plus en trois sur le roi assassin. C'est le B-boy de ma mère, c'est au pur degré. T'as su me faire danser, en vous ouvrant l'esprit d'un crime. Mais la largeur de ton poids, s'il ne suffirait pas à compter mes victimes. Un pan en retraite, comme marque de respect. Les médisances et les regards me criblent, mais en fait, qui en est la victime? Celui qui commet le crime ou celui qui en est la cible? Ne cherchez même pas, je suis intouchable. Vous l'avez su tout à l'heure. So fuck with the boss. Tu m'as déjà vu, tu en as la certitude. L'exactitude de mes c'est une mélodie, putain l'attitude. Natif du 18ème, là avec mon poème. Donc s'il te plaît, l'affaire. Car j'ai été trop de fois déçu par les personnes de confiance. J'ai été trop de fois trompé par l'ignorance de l'enfance. Malasse ou part en couille, il est temps de réagir. Mon esprit positif qui vient me contredire. Je n'écris pas que Shakespeare, mais mon style flotte. Cool qu'on bloque, et assassin et moi ma con notre époque. Écoute la façon dont je glisse. Ce n'est qu'un aperçu pour les années 90. Non, je ne pleure pas sur mon sort, car mon sort est en accord. Avec mon esprit et mon corps, on est d'accord alors. Je brise les stéréotypes et pousse ma créativité dans le domaine de la musique. Où je suis un poète, même toute la fontaine l'a été. Je m'arrache à l'homme tout plus civilisé, mais reste cool. Et ne perdons pas l'affaire. La puissance vient du nord et blanc et la couleur du frère. Exact, l'impact marque l'attaque. Le spectacle des pas pour ta famille est aphrodisiaque. Qui conteste, qui proteste. Qui que tu sois, tu swings sur mes tests. Yeah, note mon nom sur ta liste. Tu ne pourras jamais oublier, gravé dans la roche et qui restera marqué dans les annales de l'original digital style. Assassin rude, depuis la capitale alors, que dire, que faire? Dans mon vocabulaire, s'appuie sur l'internet pour épauler mes frères. Je repousse les limites, ces limites il y a, car la notion de limite est basse selon les cas. Mais pour moi, et pour mon poids sur l'action, ni vos propositions, ni vos obligations ne feront reculer mon image dans cette bulle. Je suis un bombe, les dents affûtées comme des couperets, les mâchoires prêtes à broyer, voilà le style que tu devras affronter. Point à la ligne, je repars plus digne, suivant le courant. L'intelligence met en avant la connaissance, en fait autant il faut combattre. Si tu veux t'en sortir dans notre société, l'argent est son empire. Comment pourrais-je rester impassible devant le sabotage de mon image? La couleur de ma peau n'altère pas l'intensité du message. Note mon nom sur ta liste. AWS, AWS, X, je dis ma métaphysique, oh shit, et ta même toujours plus haut. Ressens-tu l'attitude? Reste c'est là que je glisse mon amplitude. Puis redescend dans la ville pour constater que l'évolution ne viendra que par l'éducation. Pourtant hier j'ai encore vu Hubert reprendre son garçon, car il jouait avec un autre tourné par le soleil d'une autre nation. Tout ça n'est pas mon vu, la mélange toujours pas compris que le choc de fonctionner que le fruit de la vie. Et j'appuie mon raisonnement sur l'Occident qui le vit comme idée d'en empêcher son profil. comme il l'a fait en Afrique et en Orient. Voilà une division de la production assassin, solo à la culture africaine. Et moi je suis latin, je suis pas un devin, peut-être un écrivain qui va qui contient dans ses mains la solution sur le terrain. Personne ne m'arrête. Te rappelles-tu de...
J'ai la formule secrète.
Ils sont ils, je glisse sur la politique shit. Aucun enfoiré ne peut se monter au niveau où je débute. Et j'habite par la même occasion d'un passé qui s'excite. Tout ça m'a poursuivi. La puissance du vocaliste que tu nord, mon nom sur ta liste.
Voilà. C'était donc un morceau d'Assassin de 1990, pas très bien mixé. J'espère que ça a été sur vos enceintes, qu'on n'a pas pété 20 enceintes à Tours. Et donc après ce petit quart d'heure musical old school hip-hop, on va donc passer à un documentaire qui est donc été réalisé en 2007, si je me trompe pas, sur par Acrimed et la bande du Plan B, qui s'appelle donc le Cirque Médiatique.
Oui, Joseph Bové, le Cirque Médiatique, pour être précis. Donc réalisé par Damien Duhanou. Alors effectivement, c'est un journal qui a, enfin c'est un film qui a été offert aux abonnés du Plan B, par exemple sur DVD avec le dernier numéro là. Et le Plan B le présente comme un outil militant, enfin un outil de combat entre guillemets. Mais c'est aussi un film qui est disponible sur plusieurs endroits sur internet, sur le site de Zaléa TV par exemple, enfin défunte Zaléa TV, mais le site existe toujours. Donc zaléa.org, on peut le trouver. Et puis globalement, enfin il y a quelques autres sites qui l'ont diffusé. Vu que, enfin, évidemment, Acrimed, on veut que qu'il soit diffusé le plus largement possible. Donc, en cherchant sur internet, vous le trouverez très facilement. C'est un film de 55 minutes qui mélange des images d'archives, hein, des images d'intervenants, enfin de commentaires, bah genre d'Acrimed, des interviews des acteurs de l'extrême gauche, sur globalement apparemment la stratégie, mais sur l'utilisation que une partie de la gauche radicale peut faire des médias, en particulier José Bové, mais quelques autres, puisqu'on, enfin il y a aussi Besancenot, et il y en a pas mal, et on en a parlé assez souvent ici, hein, c'est enfin il y a un article fameux dont on cite souvent de c'était pas PLPL, c'était PLPL ou Plan B, je sais plus, la politique de la face tendue, donc le défunt PLPL qui a précédé le Plan B, qui est donc un article qui est assez qui est toujours d'actualité et qui était assez passionnant sur le fait que la politique de l'extrême gauche, c'est ça, c'est ils vont dans les médias alors qu'ils se font incendier dans les médias. Les médias sont contre eux, évidemment que les médias sont totalement contre la politique qu'ils peuvent avoir envie de ces gens-là peuvent avoir envie de mener. Ce sont des ennemis, enfin on dit assez, et eux-mêmes le disent, que les médias défendent le système établi. Et pourtant José Bové et quelques autres cherchent une médiatisation maximum, répondent à quasiment toutes les sollicitations et vont
c'est aussi un constat de Noam Chomsky, en fait, notamment dans le documentaire très bien qui dure 4 heures, qui s'appelle Les illusions nécessaires, et voilà, de Chomsky, on retrace son argumentaire contre les médias, et il dit parce qu'en fait le Plan B c'est aussi évidemment a aussi pris source et pris sa base intellectuelle sur les travaux de Chomsky, ce qu'on le rappellera assez, mais Chomsky et Bourdieu sont les deux, on va dire planétairement, qui ont été dans une lutte assez radicale sur la question médiatique.
Ouais. C'est aussi un film qu'on trouve assez facilement, enfin qui doit pouvoir se télécharger sur la, enfin, des différentes choses où on peut télécharger. Mais voilà, enfin, il dure 4 heures, mais à regarder par petits bouts, c'est vraiment assez intéressant, hein, sur la fabrique du consentement et sur plein de choses. Enfin, Chomsky évidemment a initié pas mal de choses. Et donc le film là de Damien Duhanou, le Cirque Médiatique, il y a plusieurs choses. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est l'utilisation des images d'archives. C'est des images qu'on voit pas forcément, parce que disons le public auquel s'adresse le film, donc plutôt des gens critiques des médias, sont pas forcément les gens qui regardent le plus les émissions de divertissement. Alors après évidemment qu'il y a plein de gens qui regardent la télévision, même dans les gens qui la critiquent, mais voilà, vous n'êtes pas forcément des inconditionnels de Hardisson, de Ruquier, de Fogiel, de tous les autres. Et donc il y a comme ça des extraits qu'on voit de certaines émissions où vraiment il y a des, enfin c'est de la carrière caricature de divertissement politique, c'est-à-dire Beauvais, on lui fait faire tout n'importe quoi, enfin il arrive sur le plateau avec des vaches, avec des machins, on lui fait goûter des hamburgers avec des un bandeau sur les yeux, enfin ce qu'il refuse d'ailleurs, mais bon, c'est, enfin tout ça est complètement ridicule. Et un des extraits les plus absurdes sur la façon dont la télé peut fonctionner, c'est un extrait d'Ardisson. Alors c'est une des premières télé de Beauvais, enfin en tout cas quand il a commencé à être médiatisé après. Alors il y a d'abord eu l'histoire du McDo démonté à Millau, et puis après il y a eu les premiers grands rassemblements altermondialistes, en particulier à Seattle. Et donc Joseph Beauvais est reçu par Thierry Ardisson, qui le présente comme mais tout à fait sérieusement, enfin bon, tout le monde est plutôt à la rigole, mais Ardisson calme tout le monde, disant non, c'est très sérieux, et il part sur une grande tirade en présentant Joseph Beauvais comme le nouveau héros français, une sorte d'Astérix, la comparaison a souvent été faite. Donc voilà, Ardisson parle là-dessus, Beauvais est un héros, et là où c'est le plus fou, c'est que Ardisson dit, enfin Monsieur Beauvais, vraiment on est heureux que vous ayez fait ça, vous êtes vraiment notre héros, parce que on a l'impression qu'enfin on est vengé de ce qu'on subit. Et c'est Thierry Ardisson qui dit ça, c'est Thierry Ardisson qui dit à la télévision je subis des choses horribles et je suis vengé par José Bové qui combat à Seattle la mondialisation, etc. Évidemment, c'est absurde, hein, qu'un type comme Ardisson puisse dire des choses pareilles. Ardisson, c'est un publicitaire à la base, hein, qui est devenu animateur télé, où il fait vraiment, enfin, à peu près le pire de ce qu'on peut voir à la télévision. Donc c'est loin d'être lui qui est l'archétype de la victime de la société libérale. Mais pourtant, quand il invite José Bové, il se place lui dans cette situation de dire ah bah voilà, je suis victime, je suis avec vous, ce qui évidemment est discrédite totalement le combat de José Bové, puisque enfin les idées qu'il peut défendre, puisque si José Bové, enfin ce qui peut se passer à Seattle ou ailleurs, c'est pour défendre des gens et pour faire plaisir à des gens comme Thierry Ardisson, ça sert pas à grand chose évidemment. Donc il y a pas mal de choses comme ça sur la façon dont Beauvais est traité dans les médias, souvent dans les émissions de divertissement, hein, c'est là que c'est le plus ridicule, puisque bon, généralement dans ce genre d'émission il parle 30 secondes de trucs un peu sérieux, puisque quand même sinon il viendrait plus, enfin j'espère qu'il ne viendrait plus, donc on le laisse quand même toujours prendre la parole un petit peu sur la mondialisation, l'agriculture, je sais pas quoi, selon le sujet du moment. Mais sinon c'est plutôt des pitreries et des trucs ridicules, enfin comme n'importe quel artiste, chanteur ou acteur en promo qui vient vendre son truc et qui se prête au jeu des animateurs de divertissement. Il y a donc en dehors de ces choses-là, il y a aussi des scènes de la Confédération paysanne, enfin de moments de la Confédération paysanne, soit des actions coup de poing sur tel ou tel endroit, ils interviennent pour faire un happening spectaculaire, ou voilà, enfin selon le type d'action qu'ils peuvent choisir. Et puis aussi les images de congrès ou de réunions de la Confédération paysanne. Et à chaque fois, donc le film interroge non pas les gens de la Confédération paysanne, même si on les entend un petit peu aussi, mais interroge surtout les journalistes, les journalistes qui sont là et qui couvrent l'événement. Par exemple sur un événement où je sais plus si c'était le salon de l'agriculture ou autre chose, enfin, où la Confédération paysanne intervient de façon spectaculaire pour bloquer un petit peu un événement, le caméraman du film, alors je sais pas si c'est Damiano Douagneau ou d'autres, enfin je pense que c'est que le film réunit des images qui ont été tournées par différentes personnes à différentes époques. Donc bref, le film va interroger les journalistes en disant bah tiens, vous allez tous sur José Bové, pourquoi, enfin il y en a d'autres, il y a trois porte-parole à la Confédération paysanne, ah oui mais ça nous intéresse pas, enfin José Bové c'est lui qui a la légitimité, les autres vont au niveau des idées ils sont sûrement à égalité, hein, mais pour parler, nous il nous faut José Bové, sinon ça marche pas, parce que c'est lui qui a la légitimité médiatique pour parler. Et à la fin du film, on voit le congrès de la Confédération paysanne où José Bové quitte son rôle de porte-parole. Parce qu'il est, enfin, il était porte-parole, enfin, le titre était porte-parole, il n'était pas président ou je ne sais quoi, donc maintenant il est à Via Campesina, l'organisation internationale. Donc quand il quitte cette place de porte-parole de la Confédération paysanne, le congrès se réunit pour entre autres désigner des nouveaux porte-parole, et donc la question de voir qui va succéder à José Bové, etc. Est-ce qu'il va être aussi intéressant pour les médias. Et là encore, le film se place non pas vraiment du point de vue de la Confédération paysanne, mais s'intéresse aux journalistes. journalistes qui tous dans ce congrès vont voir José Bové, c'est-à-dire ne vont pas voir la Confédération paysanne pour dire bah tiens vous avez fait votre congrès, alors c'est quoi vos nouvelles orientations, c'est quoi les combats que vous privilégiez maintenant, etc. De quoi vous avez parlé pendant votre congrès. C'est non, ils vont voir José Bové pour lui dire bah alors c'est fini maintenant, vous êtes plus porte-parole, qu'est-ce que vous allez faire, voilà, donc c'est il y a une espèce de d'obsession de la personne qui est une des grosses dérives des médias, c'est-à-dire que évidemment qu'on s'intéresse plus à la pensée, puisque l'essentiel est juste d'avoir quelques minutes ou même quelques secondes de José Bové dans les médias. Et un des trucs intéressants que disent une journaliste qui est interrogée, c'est que José Bové, il connaît parfaitement ça, et il connaît parfaitement les formats des journalistes. C'est-à-dire que quand un journaliste est interrogé, il dit ok, tu veux quoi, tu veux un 30 secondes, bon ok, je te fais une interview, un 30 secondes, ce sera nickel. Et les journalistes, c'est un journaliste radio en l'occurrence, bah ils sont ravis, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui maîtrisent pas ces formats-là, et les journalistes après ils sont obligés de bosser, de faire des montages, des trucs comme ça.
Et chez Ardisson, il accepte de soulever les mains en faisant bouger ses mains là, tu sais, quand ils font les conneries de jingle, il l'a fait.
Ah ouais,
je l'ai vu.
Tu regardes Ardisson?
J'ai regardé Bové à Ardisson. Il fallait voir ça.
Ouais, non, mais donc voilà, c'est un des aspects du film, c'est que c'est le bon client, c'est-à-dire celui qui doit être présent au maximum et qui lui-même se prête au jeu en rentrant dans les formats qui sont des trucs complètement limités et très courts, dans les formats des journaux.
Ah ça y est, ouais, je t'avais laissé une minute pour faire.
Okay. Ah ouais, je crois que c'était une seconde. Moi.
Non, très bien. Je chope la perche tout de suite, puisque justement, pour continuer l'exploration hip-hop de cette émission, désolé pour les gens qui n'ont pas le rap, cette fois c'est une heure de rap. Et bah oui, c'est moi qui ai tout préparé, donc du coup, voilà, c'est comme ça. Et là, donc, on va passer à un morceau. Du coup, on a passé le premier d'Assassin, on va passer le dernier d'Assassin, parce qu'il est en lien avec ce dont tu es en train de parler, quoi, c'est-à-dire Assassin qui refuse systématiquement de passer en télévision depuis maintenant sa grande carrière de 20 ans, et qu'il explique dans un morceau en 2008 où il répond notamment à Fogiel Ardisson en expliquant pourquoi il passera pas dans son émission ce que n'a pas accepté de faire Bové.
Tu vas, j'ai pété les 20h30 avec Christine aux craintes, où ça me posait des questions sur la banlieue et ses craintes. Les gens veulent changer le monde sans changer eux-mêmes, ils veulent plus de respect, ils savent pas dire je t'aime. Pourquoi je suis sous capuche quand je parle dans les médias, car rares sont ceux qui cherchent plus loin que ce qu'ils voient. Ma musique, une mode, mais des fous quoi. J'ai de faire comprendre pourquoi moi on me voit pas. Je suis trop brûlant pour la télé, car mes racines sont trop profondes, et l'artiste que je suis ne veut pas changer le monde, mais simplement le comprendre, et pour ça faut du temps. Donc je prends mon temps, j'étudie et j'apprends. Ton audimat ne vaut rien face à mes échecs, à mes voyages, mes expériences, aux conseils de mes maîtres. C'est sûr, y'a moins de mailles, donc faut qu'on s'adapte. Encore un nouvel album, écrit souris et pâte. Mais les thèmes s'additionnent et le hip-hop t'épate. Et demain comme Bob Marley, on jouera ceux qui se tapent. Donc non, Ardisson, man, je ne viens pas. J'ai pas besoin de ton émission pour comprendre que je crois en moi. Et non, jeune Fogiel, toi aussi je ne viens pas. Même si je suis fils Cassel et t'aimerais parler de ça. Ici c'est une autre dimension, la télé ne peut pas suivre. Mais m'oublier dans le hip-hop, c'est comme la salle, ça sent ses cuivres. Après la période de Nova, c'est la rap attitude. Mais rares sont les groupes avec de l'attitude. Donc le business commence, son rat de marée. Les groupes signent de la merde et se font bananer. Mais moi, averti par mes MC qu'un rit, j'arrête notre contrat et retourne dans l'oubli. Mais j'ai continué à croire en mon hip-hop, à écouter Public Enemy et Billy Bill Scott La Rock. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas tous s'égarer. Ministère Hammer veut faire de la variété. Ayam et NTM, en France et Game. Les médias en raffolent, je leur laisse le Hall of Fame. Il faut qu'un groupe résiste, ou pire même qu'un artiste. Donc en 92, j'ai pris une autre piste. Il n'y aura plus tête qu'une formule secrète. On va construire la pièce qui manque à l'architecte. Revenir aux racines même de ce qu'on revendique. Redonner l'espoir au hip-hop authentique. Là, les médias n'ont pas voulu nous griller avec Libé ou Godfrey chelou. Car dès que tu veux qu'on respecte tes conditions, c'est mort. Ils parlent de censure et cherchent ta mise à mort. Mais le public est là, donc j'ai fait l'effort. Assassin, groupe de scène, armure de métaphore.
Tu vas, 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 tu Trop chaud pour la télé car les thèmes sont trop chauds.
Ah, chaud.
C'est l'animal qui pilote tous mes mots. Donc je prends du recul, même en première ligne. Moi ce qui m'observe c'est les satellites anonymes. Donc tu m'étonnes que je sois pas devenu leur nouvelle star. Qu'on glorifie à Skyrock sur laquelle on veut faire des milliards. Condamné à errer comme la conscience des sioux. Seuls ceux qui s'intéressent auront accès au tout. Y'a pas de carrière attitude que de la condition humaine. Entre le gain et la perte c'est tes choix qui t'apprennent. Il faut des lyricistes, y'en a plus du Rakim. Y'a plus non plus de génie, depuis Charlie Chaplin. Donc tu veux que j'aille m'afficher chez Coé pour sauver le monde. La beauté est déjà dessinée, arrête-toi une seconde. Regarde, observe. Tout est déjà dit, certains de nos ancêtres humains ont réfléchi.
Tu rates, tu rates, tu rates, tu rates. 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 Tu rates, tu rates, tu rates, tu rates, tu rates.
Alors José, si tu nous écoutes, fais un 10 de rap avec Assassin, Rocky Squat et balance tout ce que t'as dans le ventre sur le fait que tu veux pas passer dans les médias, mais que t'as choisi de le faire quand même. N'est-ce pas, Com?
Eh oui. Et bah, les conséquences de ce choix et de l'hypermédiatisation de Beauvais, bah, c'est qu'il y a un moment, il y a un retour de bâton et que les critiques des médias, une fois qu'on est rentré dans le système, bah, on peut plus les contourner et on peut quasiment plus les contester. Et le film parle de ça aussi. Alors il y a déjà des critiques de base entre guillemets, alors qui montrent un fonctionnement un peu curieux des journaux, c'est qu'il y a plein de journalistes qui régulièrement demandent à José Beauvais, mais alors José Beauvais, vous êtes vraiment médiatique quand même, vous venez souvent dans les médias, comment ça se fait, est-ce que ça nuit pas à votre message? Et ça, alors c'est une question que les journalistes posent régulièrement à différentes personnes, et c'est enfin à chaque fois j'ai l'impression d'être dans une quatrième dimension, c'est-à-dire que c'est des journalistes, enfin des gens de médias qui disent à quelqu'un mais dites donc, vous venez souvent dans les médias, c'est pas bien. C'est ce qui est quand même un fonctionnement curieux, c'est-à-dire c'est les mêmes qui invitent José Beauvais et qui une autre fois vont leur dire mais dites donc, vous venez souvent dans les médias. Enfin c'est quand même un fonctionnement totalement schizophrène. Mais du coup Beauvais, bah, en venant dans les médias, prête le flanc à ce genre de fonctionnement complètement dégénéré entre guillemets des médias. Et après il y a des critiques plus graves qui ont été faites à Beauvais. Alors il y a un passage du film sur les critiques qui reviennent régulièrement, des reportages des fois qui sont faits là-dessus sur le fait que Beauvais serait pas vraiment un paysan, c'est-à-dire qu'il a pas une vraie culture de paysan, qu'il n'y a pas de là-dedans, qu'il est pas souvent à sa fête, que machin, que ceci, ce qui évidemment est une façon de discréditer son combat.
C'est pas vrai, moi je l'ai vu, j'étais sur le Larzac, je l'ai vu et tout dans son champ avec ses chèvres. C'est véridique.
Les médias se posent souvent la question de dire mais est-ce que vraiment ce type est un vrai paysan ou un militant professionnel? Ce qui est là aussi une forme de schizophrénie, puisque c'est les médias d'un côté font des reportages sur quand il faut faire mousser un peu José Beauvais en disant c'est le petit paysan français qui se mobilise contre la mondialisation, etc., c'est super, et en retour de bâton ils disent est-ce que c'est un vrai paysan, est-ce qu'il est pas en train de se foutre de nous, etc. Et puis après il y a des critiques plus dures que José Beauvais a subi et qu'il n'aurait pas subi s'il n'avait pas été aussi médiatique. C'était une polémique qu'il y avait eu il y a 2 ans je crois sur de propos qu'il avait eu sur le Mossad, les services secrets israéliens, avec des choses qui avaient été interprétées par certains en disant que Beauvais sous-entendait que peut-être les services secrets israéliens seraient derrière certains attentats antisémites, etc. Enfin, il y avait eu une polémique là-dessus et les intellectuels de référence des médias qui ne méritent franchement pas tellement le nom intellectuel quand on regarde leur production littéraire ou quoi, mais des gens comme Finkielkraut ou Alain Minc se sont emparés de ça en disant Finkielkraut dit ça puisque José a dit ça, il est discrédité à vie et plus jamais il sera intéressant. Alain Minc parle de barbarie intellectuelle, enfin c'est des voilà, c'est là on ça, le lynchage de Jos Bavie qu'il y avait eu à cette époque-là. Mais sachant que s'il n'avait pas été aussi à ce point-là un chouchou des médias, et s'il n'avait pas accepté d'être un chouchou des médias, il n'aurait pas été, enfin ses propos n'auraient pas été analysés et observés en permanence. Et donc c'est les choses qu'il avait pu dire à ce moment-là n'auraient pas été déformées de cette façon-là, et il n'y aurait pas eu ces polémiques.
On aurait le même respect pour lui qu'on a pour Hawkins Squad d'Assassin.
Voilà, que Alain Finkielkraut ne connaît sûrement pas. Enfin, peut-être, hein, on ne sait jamais, mais ouais, ça m'étonne. Il faudra faire une spéciale Finkielkraut un jour, parce que c'est quand même le pire, je pense. Mais bref. À main qu'il a un côté mine gentille, un peu con-con, mais Finkielkraut.
Journaliste couché, méchant, hein,
bref, il n'est pas journaliste, hein, il est.
Intellectuel couché.
Il se voudrait le plus grand intellectuel de son temps, c'est quand même terrible. Ouais. Bref. Il y a quelques. Alors, il faut garder du suspense pour le film. Donc,
la scène finale.
Il y aura toutes les scènes. Il y a un truc avant, une scène qui est très drôle. Parce que, donc, le film, il y a à la fois, donc, comme je disais, il y a à la fois des images d'archives, puis il y a des interventions de Serge Halimi en particulier qui commente le. C'est Rémi qui devait être l'auteur de le Pays de la Fraise Tendue, je sais plus. Enfin bref, enfin, qui est un de ceux qui écrit le plus sur les médias.
Qui est un peu notre chouchou quand même, hein, faut l'avouer. Hein,
oui. Enfin, ouais,
on est très connivant avec Serge Halimi.
Il y a quelques autres, mais. Donc bref, il y a régulièrement des commentaires de Serge Halimi sur qui mettent en perspective les images d'archives qu'on a pu voir. Et la télé aborde aussi d'autres. Le film, je veux dire, aborde aussi d'autres dérives qu'il y a autour de du traitement de la gauche radicale, de l'extrême gauche dans les médias, avec le personnage de Michel Field par exemple, qui est un peu le symbole de
Michel Field,
des pseudo-gauchistes que les médias prennent pour se donner un peu de bonne conscience. C'est-à-dire que Michel Field, alors maintenant il a, je pense qu'il avait, il a perdu cette image là parce que ça fait quand même longtemps, mais au début il avait un peu une image de voilà le mec rebelle,
bah, il fumait la pipe, hein,
le type un peu intello, un peu rebelle, qui a été à l'extrême gauche machin tout ça, et qui fait la télé. Donc il avait cette image là et le film revient un peu là-dessus en démontrant ça, et surtout montre une image une petite image incroyable qu'il faudra, je pense, qu'on intègre dans notre générique le jour où on le refera dans 10 ans,
le générique arlésienne qu'on vous promet depuis un an et demi.
Mais si on met bout à bout tous les trucs virtuels qu'on voulait mettre dans notre générique, il est hyper bien notre générique. Mais bref, donc juste après qu'on ait vu donc un petit discours sur Michel Field et qu'on le voit dans ses émissions, il y a un truc qui est une pub, enfin sûrement un film interne de Casino, les supermarchés Casino là, enfin les supérettes machin, où Michel Field présente ce qui est une espèce de faux journal télévisé. avec face à lui le chef de casino, enfin le président ou je sais pas quoi,
faut avoir machin. Un master de philo pour faire.
Mais et donc Michel Field dit donc on se pose un petit reportage sur Casino, et il revient donc il fait le faux journaliste sur un faux plateau télé en disant, après avoir vu ces images, on a vraiment envie de connaître les nouveaux produits Casino. voilà, c'est ça. Si vous avez encore quelques doutes sur Michel Field, ou qu'au contraire vous voulez voir encore une fois comment ce personnage peut être cassé tout de suite, faut regarder ces quelques images. C'est assez drôle. Et puis la dernière scène qui vaut quand même le coup, enfin qui est pas une scène de télé pour le coup, enfin c'est après le générique, il y a un petit rajout, un bonus du film qui est une scène de radio en fait, où José Bové qui allait à Hong Kong pour pour protester contre une réunion de l'OMC, je crois. Donc il arrive à Hong Kong, et à Hong Kong il se fait arrêter, il se fait interdire d'entrer sur le territoire de Hong Kong par les autorités chinoises après la réunification, je crois. Il peut pas rester à Hong Kong, et son premier réflexe c'est pas de mobiliser ses militants, c'est pas de faire connaître l'info au réseau altermondialiste ou je sais pas quoi, c'est d'appeler Stéphane Paoli à France Inter, notre ami Stéphane Paoli dont on parle régulièrement ici. Il l'appelle en disant je suis à Hong Kong, je suis dans le cal de rétention de l'aéroport, on m'interdit d'entrer à Hong Kong, je vais être envoyé à Paris, c'est horrible. Et Stéphane Paoli dit, oui, alors à Hong Kong vous ne laissez pas parler, mais nous on veut bien vous laisser parler, est-ce que vous serez rentré demain matin? Attendez, je prends mon avion à 11h30, avec le décalage horaire, oui, je devrais pouvoir être là demain matin. Le film se finit là-dessus, et c'est l'exemple, il y aurait pu y avoir mille autres exemples, mais c'est... Je pense à un extrait qui montre vraiment là où en est José Bové. C'est-à-dire que quand il lui arrive un truc comme ça, c'est un truc un peu important quand même. Il se fait refouler dans un pays où il vient mener une action publique. C'est un petit peu important. Son premier réflexe, c'est d'appeler France Inter, cette pauvre émission du matin.
C'est ce que je fais aussi quand avec les dans le bus syndiqué.
Ouais. T'appelles Stéphane Pauli ?
J'appelle Stéphane France Inter. Oui, l'animateur de Radio Propagande a été arrêté dans un bus syndiqué.
Et ils disent qu'il faut arrêter de les appeler. le film se finit là-dessus. Et je sais pas s'ils se connaissent très particulièrement ou s'ils sont particulièrement connivants ou quoi. Mais en tout cas, le fonctionnement de José Bové et malheureusement de pas mal d'autres figures de la gauche dans les médias, c'est ça. C'est on est gentil avec les journalistes, on considère les gendres et on ferme les yeux quand on se fait humilier, insulter, ce qui arrive quand même le plus souvent.
Alors voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de voir ce film qui s'appelle donc José Bové ou les cirques médiatiques, qui est visible sur
Zalea.org.
Vous pouvez aller le voir sur
qui est téléchargeable, qui se trouve sur différents sites.
Et par contre, vous pouvez aussi vous abonner au plan B et essayer d'avoir ce DVD offert avec l'abonnement sur ce film-là. Et donc, pour finir notre session hip-hop et également l'émission, on reprendra l'antenne pour parler de annoncer quelques actes. Des événements, notre petite partie agenda qui dure 20 secondes en général. On va finir avec.
Tu vas pas le faire avant la chanson ?
Non, parce que j'ai pas prévu. James Pionnet et Zoen, un monsieur de Tours. Donc c'est la suite du hip-hop, ceux qui reprennent le flambeau.
This mist gathering in my throat, like I know I nearly know something, but don't know if I want to know it or not yet. Sure, I could force an emotional block, no problem, but why'd I relinquish the only freedom I've got? People only care if it's in their interest to do so, and it's a rotten modern trend to make like we're loveless. We're not loveless, we all sense it really. Steal me one of those scenes I've seen on the box of family board games. You know the ones, such wonderful smile lines. This is adult entertainment, don't shoot the messenger, car bomb the gobby swine. I'm fully prepared to perish in such a fashionable fashion. We can't all be wealthy, plump and powerful with our name engraved on a plaque, so we adapt and become great at locating vacant plots. There's a daily chaos caused in my hometown by rampant illegal parking, while I start and stoke fires on bridges just to make my eyeballs sparkle. Never mind the meaning of this rhyme, I haven't decided it myself yet. Yesterday I couldn't write for shit, today I keep speaking it, my sexist words. The best bits, the first few words of the rest is truly tiresome. But you can't blame me for being as boring as everything else is, or can you? I grew up quick, look old and feel older still. This is a compilation of observations I made on mundane days. In my own pitiful way, place a cherry on top of the very arbitrary. Sit back and watch it sink. Thinking is a funny thing to do, I don't advise it. Most of my life's like an itch in the middle of my shoulder blades I can't reach. With speech in my own pitiful way, I place a cherry on top of the very arbitrary. Sit back and watch it sink. Thinking is a funny thing to do, I don't advise it. This is adult entertainment, don't bomb the messenger, poison him like they might in James Bond. I long to be such a pest as a trigger, an elaborate plan. I could stand in one of many public spots all day and never exchange eye contact with any human being. The floor is evidently more intriguing. Predominantly, I'm an average soul with a dash of superhero. I like to you in many ways and not in many more. This was a compilation of observations I made on Monday. Cherry on top of the very arbitrary. Sit back and watch it sink. Thinking is a funny thing to do, I don't advise it. Most of my life's like an itch in the middle of my shoulder blades I can't reach. With speech in my own pitiful way, I place a cherry on top of the very arbitrary. Sit back and watch it sink. Thinking is a funny thing to do.
Alors on reprend très vite l'antenne pour une petite séquence d'autopromotion. Ça nous arrive pas souvent, mais là l'actualité s'impose à nous puisque le Canard du coin dont on fait partie, comme et moi, le journal donc de critique des médias, le journal d'information locale, qui en vend dans tous les kiosques. Hein, eh bien, il passe en mensuel ce mois-ci. Donc un nouveau numéro vient de sortir en kiosque dans la semaine et on sera à l'émission de Radio Béton.
Il n'est pas encore en kiosque en fait. Il le sera à partir de demain.
Ouais. D'accord, donc à partir de demain, et vendredi donc à 13h, donc demain à 13h, une interview spéciale des gens du Canard du coin pour présenter ce passage en mensuel. Voilà, on termine cette émission sur une séquence d'autopromotion et d'autoconnivence et de auto...
on fait comme les vrais journalistes, mais on le dit, c'est ça qui est important.
Voilà, et c'est mal, d'ailleurs.
Ah non, si on le dit, c'est chacun, ouais, c'est chacun la voix après.
C'est vrai. Eh bien, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Et d'ici là, pour patienter, parce que vous allez être en manque de radio propagande, vous pourrez écouter l'émission À bout de souffle. Bon, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est juste pour vous faire patienter, quoi.
Vous pouvez aller sur notre site aussi.
Ouais, c'est ça, télécharger toutes les émissions. Voilà. À bientôt.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
La relation privée d'un homme politique avec un patron d'entreprise, fût-elle une entreprise de médias, ça fait partie de la vie publique, de la vie privée.
Vous verrez, vous êtes jeune, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, vous serez aussi celui qui tutoie les hommes politiques.
Non, il n'y a pas de sujet tabou, il y a simplement, je crois qu'on peut parler de n'importe quel sujet à la télévision à n'importe quelle heure. Il s'agit de savoir comment on va le faire.
Une erreur a été commise par l'ensemble de la presse et par nous-mêmes hier soir.
Je peux dire une chose importante. Vous avez parlé pendant 10 minutes au moins de l'affaire Georges Marché, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marché faisait pendant la guerre. Ce que je voudrais savoir, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles par eux. C'est ça que je voudrais qu'on me dise. C'est pas l'information qui me le dit. Je voudrais savoir pourquoi M. Boulin a été suicidé ou s'est suicidé, on ne le saura jamais. Pourquoi M. Fontaine a été assassiné, pourquoi l'affaire de Broglie n'a jamais été éclairée, pourquoi le juge Renaud, on ne sait pas ni pourquoi ni comment il a été assassiné. J'en ai d'autres. La seule chose que je peux vous dire, M. Mitterrand, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.